Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes ravis de débuter la semaine en votre compagnie dans Radio Foot avec un classique. On ne peut plus classique à la une. Un stade Vélodrome en ébullition, un OM gonflé à bloc, un OM en supériorité numérique même, et une victoire du PSG à l'arrivée. C'est la même chanson en Ligue 1 depuis des lustres, enfin plus précisément depuis l'arrivée du Qatar dans la capitale. Les journalistes du Parisien n'ont même plus besoin d'écrire de nouveaux articles en fait. Ils pourraient se contenter de republier ceux des saisons précédentes. N'est-ce pas, Dominique Sévrac?
En plus, une fois qu'on l'a écrit, c'était déjà, on a déjà tout dit, c'est déjà brillant. Donc c'est vrai qu'on pourrait s'en resservir, les recycler. Ça serait, on aura un bilan carbone meilleur.
Peut-on vraiment réécrire du Dominique Sévrac? C'est une question qu'on pourrait se poser effectivement. Pour le classique de Radio Foot, nous accueillons également, afin d'équilibrer un petit peu les débats, même si en termes d'ego, c'est compliqué, vous avez mis la barre à un certain niveau, Dominique. Nous accueillons également notre Marseillais, Marc Libra. Bonjour Marc.
Bonjour Hugo, vous avez fait exprès mettre en face, c'est pas possible.
Mais d'ailleurs, il a lancé des hostilités.
Je sais, mais il est toujours ses petits couteaux.
Avant le coup d'envoi, si je
Bien
puis
sûr,
dire. À peine installé en studio.
Comme d'habitude.
Il s'est permis de vous chambrer.
Il chante.
Bon, en même temps, footballistiquement parlant, c'est difficile de lui donner tort, je suis désolé. Bonjour Franck Simon.
Bonjour Hugo.
Je compte sur vous, Franck, pour nous éclairer sur la reprise des Coupes d'Afrique de clubs.
Absolument.
Match nul et vierge, pour le tout-puissant Mazembe comme pour l'ASEC d'Abidjan, avec un peu plus de déception pour le premier que pour le second, me semble-t-il, mais...
Nous sommes d'accord.
D'accord, vous me confirmerez ça tout à l'heure. Alors, Radio Foot, c'est parti.
Mal, c'est assez douloureux. Ma déception, c'est de perdre mon supporter.
Un gardien incroyable, voilà.
Deuxième remise vers Vitinha, le contre de Vitinha, la reprise. Et le contre pour le Paris Saint-Germain, pour peut-être une balle de 2 buts à 0. Contre ça, Laura Manche, le contre fulgurant du Paris Saint-Germain pour éteindre le stade Vélodrome, 2 buts à 0.
Le classique se joue à 11 Marseillais contre 11 Parisiens et à la fin, c'est Paris qui gagne en ne jouant même pas à 11. En tout cas, le scénario habituel, c'est celui-là en Ligue 1 depuis 2011 quand Marseille reçoit le PSG. J'ai bien dit en Ligue 1. Il y a eu quelques exceptions dans l'absolu depuis le rachat du PSG par le Qatar en 2020, le succès de l'OM au Parc des Princes en plein Covid et puis 2023, donc la saison passée. Au Vélodrome, le succès de l'OM, mais en Coupe de France, pas en championnat, pour une victoire de l'OM à domicile en championnat, donc face à Paris, pour remonter à novembre 2011.
Tout ça pour
Je
se faire sortir
si
par Annecy, après.
Vous imaginez.
C'était vraiment intéressant d'avoir cet expo. C'était intéressant d'avoir cet expo.
Soyez un petit peu...
Moi, il rappelle juste les trucs, Marc.
Ne partez pas trop vite, gardez-en un petit peu. Gardez-en un petit peu sous le coude, mon cher Dominique. Est-ce que je peux parler?
Je vous en prie.
Bonjour, vous êtes.
Bonjour, bonsoir.
Bonsoir. Bienvenue.
Annie Gasnier du lundi. Hier, c'était la 27e journée du championnat de France. Grâce à son succès, Paris possède 12 points d'avance sur Brest en tête du classement. Marseille est 7e. Le classique a pourtant débuté dans un vélodrome en feu avant de tourner au pétard mouillé, en tout cas pour les Marseillais. Puis il y avait vraiment de la pluie en plus, donc la métaphore elle est vraiment très très bien trouvée, quel talent. Comme d'habitude, si je puis dire, malgré l'expulsion d'un Parisien à 0-0 dès la 40e, Beraldo. Est-ce qu'il faut encore, après avoir dit tout ça, en faire tout un fromage de ce classique Marc Libra qui regarde son téléphone, ce classico à la française? Est-ce que ça vous fait encore vibrer, vous, le Marseillais de l'équipe de Radio Foot?
Non, mais vendredi, j'étais dans votre émission. Je n'étais pas forcément très serein par rapport à la composition d'équipe des Marseillais. Paris a quand même un effectif un petit peu plus conséquent, un peu plus impressionnant. Qu'on le veuille ou non, ça fait. Vous avez parlé des deux victoires de Marseille depuis l'ère Qatari. Les deux fois, je crois qu'il n'y a pas Mbappé à chaque fois, parce qu'Mbappé est capable d'éteindre le stade. Et là, ils n'ont même pas eu besoin d'Mbappé, puisqu'il était inexistant.
Il était là.
Oui, il était là, s'il n'était pas là depuis quelques semaines, avec l'équipe de France, avec Paris. Il est sorti fort, justement. Mais cette équipe de Marseille, malheureusement, c'est trop faible. C'est trop faible actuellement. C'est-à-dire que le talent d'Aubameyang ne peut pas tout faire, il ne peut pas tout sauver, il ne peut pas faire tous les appels. Et quand on voit le déroulé du match et qu'on voit que c'est un tout petit Paris qui démarre ce match, il y a ce carton qui va arriver, logique ou pas logique, on se dit, ben, finalement, il y a un truc à faire. Et à la mi-temps, je me posais la question, est-ce qu'il faut continuer à attaquer ou peut-être le 0-0, c'est peut-être intéressant? Parce que, non mais c'est sérieusement, par rapport à l'écart qu'il y a entre les deux équipes. Ben finalement, ils n'ont pas appris, ils sont partis à l'abordage, et ils se font contrer bêtement, et à partir de là, ben, on court après le résultat.
C'est donc, quelque part, il y a un problème, quelque chose d'un peu pourri dans ce royaume du classique, mon cher Dominique Sévrac. Il y a quelque chose de résigné maintenant chez les supporters marseillais. Ça ne joue plus exactement au même sport, parce que les moyens de Paris sont pas illimités, mais largement supérieurs à ceux de l'OM. Est-ce que ce classique vaut encore la pub et l'engouement qu'il suscite, l'engouement médiatique, l'engouement auprès des supporters?
Moi, je trouve que c'est un match à part. Ça vaut peut-être pas un Saint-Etienne-Lyon ou un Lyon-Saint-Etienne. Qui est un vrai derby, qui est une rivalité vraiment ancestrale. Celle-là est plus artificielle. Elle a été construite dans les années 90 par Canal+ et Bernard Tapie, quand respectivement ils détenaient le Paris Saint-Germain et l'OM. Et Bernard Tapie avait besoin un peu d'un concurrent. Comme aujourd'hui, le Paris Saint-Germain en Qatar aurait besoin d'un Marseille possédé par l'Arabie Saoudite, par exemple, ou par un pays qui a des fonds incroyables.
Pour rééquilibrer les débats. Pour rééquilibrer un peu les choses.
Ou un milliardaire quelconque, hein, je dis l'Arabie Saoudite, mais ça peut être...
En tout cas, rééquilibrer les débats.
Voilà. Et donc, moi, je trouve quand même que c'est un match qui a une saveur particulière. J'ai trouvé que celui-là était quand même plutôt de bonne facture. Il est pas mal. Il y a des buts, il y a des erreurs d'arbitrage. En tout cas, il y a l'arbitrage qui fait parler. Il se passe des rebondissements. Il y a des belles choses. Après, je trouve que dans l'histoire du PSG sous pavillon qatarien, je pense que c'est l'OM sous Bielsa qui a raté le coche. C'était à ce moment-là qu'il y avait peut-être un des OM les plus forts, avec un Gignac qui était encore à son sommet, qui était en France.
En 2015, à peu près au même moment de la saison, il y a un 3-2 pour Paris au Vélodrome, mais c'est vrai que c'était...
Voilà, je trouve qu'à ce moment-là, il y avait une incandescence beaucoup plus forte à l'OM, parce que là, vous dites, il y avait une super ambiance. J'ai vécu des classicos beaucoup plus chauds, beaucoup plus fervents, beaucoup plus fumigènes, beaucoup plus électriques.
Même de l'époque électrique. Même de l'époque, pas loin.
Donc voilà, et même c'est un pari qui a un peu moins de stars. Il y a pas de Zlatan, il y a pas de Neymar, il y a pas de Messi. Messi a joué un classico très triste il y a deux ans, un 0-0 là-bas avec une expulsion d'Achraf Hakimi. Donc voilà, mais non, celui-là était plutôt pas mal et je trouve qu'il garde sa saveur ancestrale. L'année prochaine, je serai toujours devant mon classico du match aller, du match retour. Je trouve que c'est des matchs à part.
Oui, mais d'autant que vous n'avez pas d'articles à écrire puisque vous republiez ceux des années précédentes. On en revient au commencement. Je plaisante, hein, je précise. On va pas atteindre à la dignité, à la réputation de l'excellent Dominique Sévrac. Franck Simon, c'est toujours la même chose, le classique?
Non, pour moi, c'est pas cet éternel recommencement dans les scénarios. C'est pas vrai. D'ailleurs, ça a été bien décrit par mes coéquipiers du jour. Moi, en tout cas, j'ai toujours plaisir à les suivre. Malheureusement, je n'en ai pas fait à Marseille. Ça reste encore un truc à faire,
en tant que supporter, en tant que journaliste.
J'en ai fait beaucoup au Parc des Princes à une période, et notamment la période Bernard Tapie, c'était quand même très particulier. Je suis heureux de les avoir vécus, comme toi sans doute, Dominique.
Mais c'était l'époque des poètes.
Ah oui, il y avait de sacrés poèmes. des poèmes, des poésies, du lyrisme dans les vestiaires et dans les coursives, surtout, du Parc des Princes. C'était l'ancien Parc des Princes. Mais bref, moi j'ai bien aimé hier, effectivement, ce que tu décrivais, Dominique, sur l'intensité, sur le scénario, avec un arbitrage qui, pour moi, a plombé. Faut le dire, on en a pas encore parlé, mais ça
pour moi plombé. On va développer.
Mais voilà, ouais, il y a forcément des regrets marseillais. C'est pas du grand Paris Saint-Germain, mais c'est une équipe qui est cruelle à chaque fois dans sa façon d'évoluer. Ils sont cliniques. Et ils sont efficaces au moment où il faut l'être.
Alors justement, on va embrayer le Paris Saint-Germain, honneur au vainqueur, Marc Lebras. Je suis désolé,
on
tartinera sur les Marseillais.
Vous n'êtes pas là demain,
Non, demain, c'est pour ça.
Donne-toi aujourd'hui.
Je vais changer d'adresse d'identité, parce que là, Marc Lebras m'a dans le collimateur. Honneur au vainqueur, je le disais. Donc, est-ce que c'est un succès probant et prometteur pour Paris? Alors, c'est pas tellement en vue du titre de Ligue 1, de champion de Ligue 1 que je dis ça, mais en vue des échéances européennes, le quart de finale de Ligue des Champions face au Barça, est-ce que vous avez décelé des indices qui peuvent rendre optimistes les supporters dans la victoire d'hier?
Je ne pense pas qu'on puisse récupérer la moindre information intéressante sur ce genre de rencontre. Marseille ne vous procure rien, vous jouez à 10, vous gérez le match tranquillement. Vous avez des joueurs footballistiquement beaucoup plus intelligents et qui ont géré beaucoup mieux, je pense, l'événement de hier à 10 contre 11. Après,
est-ce que c'est pas ça l'élément, tu vois, sur la gestion et le mental, sur le jeu sans doute.
Je vous rejoins pas trop quand vous dites c'est pas un bon pari qu'on a eu, c'est un pari qui est dans la gestion totale, comme on le voit depuis le début de saison. Paris a été en danger sur certains matchs quand l'équipe a essayé de pousser et d'aller les chercher. Oh, on va se rappeler qu'en Ligue des Champions, il y a deux matchs, que ce soit à Milan ou à Newcastle, ils se font bouger parce qu'ils se font rentrer dedans. Marseille n'est même pas capable hier de leur rentrer dedans.
Un petit peu, pour un quart d'heure quand même.
Mais tu sais qu'avec Marseille, ça marche toujours comme ça. C'est-à-dire que t'as à peu près 35-40 minutes où ça va pousser, tu sais que tu laisses passer ça. Et qu'en seconde, il y a toujours un creux abyssal qui va durer 15-20 minutes. Et c'est exactement là, à ce moment-là, où tu es en supériorité, où tu vas prendre ce but, où tu vas te livrer. Vitinha, qui n'est pas un joueur, on le rappelle, box-to-box, part de son camp, va accélérer, va dribbler et va mettre
Marc,
un but.
C'est ça qui beaucoup sur les défauts de l'OM. Moi, je voudrais dire quand même qu'il y a peut-être des confirmations, Hugo. Je trouve que Donnarumma fait sa meilleure saison.
Ah oui, non, mais bien sûr,
je
là, on est d'accord.
Que Vitinha, dont justement il vient de parler pour le but, je trouve que c'est quand même un garçon très intéressant. Une année où Paris a voulu vendre et a vendu Marco Verratti aux grandes dames des supporters, dont c'était le chouchou.
Alors, évidemment, et à la même époque, plus ou moins à la même époque, Vitinha, il se faisait houspiller sur le terrain par Neymar.
Voilà, il y a une première saison dernière. Il y a une première saison de Vitinha qui a acheté à Porto pour 40 millions, qui n'est pas probante. On se dit, bon, bah, c'est OK. Ça, c'est ça, les idées de Blues qu'on pose, pas terrible. Et un an après, débarrassé de Messi et de Neymar, qui visiblement l'inhibaient un petit peu aux entraînements, on s'aperçoit que Vitinha donne une forme de pleine mesure, il marque de loin, souvent. Bon, hier, c'est avec un relais avec Ousmane Dembélé, c'est une frappe dans la surface.
Qui n'est pas en confiance et qui se dit, bon, je préfère pas frapper, je vais la donner. Non, ouais. Mais c'est terrible, c'est ça,
non,
en plus.
Bien sûr, non, mais je trouve que avec un Mbappé qui a été plutôt absent des débats, Paris s'impose à 10, donc du caractère, Donnarumma toujours aussi bon, Vitinha toujours aussi bon, Paris a joué à 10 et même quasiment à 9 puisque Mbappé était absent. Donc il y a quand même quelques trucs, parce qu'on sait qu'Mbappé, les matchs de Ligue des Champions contre le Barça notamment, il sera beaucoup plus
appliqué. Alors oui, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que c'est aussi un signe qu'on n'a pas besoin de Mbappé puisqu'il n'a pas joué tout le match et quand il a joué, il n'a pas beaucoup pesé? Est-ce que il y a un problème Mbappé ou
un
pas
problème.
Du tout? C'est encore un faux débat du lundi.
Juste avant la trêve.
Après un énième remplacement.
Juste avant la trêve internationale, il fait un triplé à Montpellier. Personne ne se dit qu'il y a un problème Mbappé. Après, il y a ces matchs de internationaux où tout le monde s'est géré, mais lui, ça s'est peut-être vu plus que les autres. Parce qu'il sait qu'il arrive justement Marseille, la Coupe de France mercredi, le Barça la semaine prochaine. Donc il s'est géré complètement contre l'Allemagne et contre le Chili. Donc il a été transparent dans ces deux matchs. Hier soir, c'est là où c'est un peu plus surprenant, c'est que c'est un match qu'il a ciblé. C'est un match où, après, il commence le match avec Lucas Hernandez derrière lui. Finalement, il y a un rouge, donc Zaïre Emery devient l'arrière-gauche.
Voilà.
Lucas Hernandez devient axe gauche. Zaïre Emery, qui n'est pas arrière-gauche, devient arrière-gauche. Donc il n'a plus du tout les mêmes automatismes et les mêmes dédoublements possibles. Ça ne veut pas dire qu'il aurait peut-être fait un bon match si Beraldo n'avait pas été expulsé. Mais il a été un peu absent, un peu ailleurs. Il y a ces polémiques sur sa sortie. Est-ce qu'il a insulté? Qui l'a insulté?
Non, je pense pas.
Ça, on ne saura jamais. Et puis, ce n'est pas très intéressant. Mais toujours est-il que c'est un nouveau match où il passe à travers. Donc, c'est un peu bizarre. Mais contre le Barça, Hugo, je pense que sur les deux matchs, il sera là.
Alors, il n'y avait pas Mbappé vraiment pour faire la différence, mais le deuxième buteur, donc en fin de partie parisien, c'est Gonçalo Ramos, autre portugais, c'est vraiment du 100% portugais du côté des buteurs de Paris hier. Septième but toute compétition confondue pour ce joueur acheté assez cher du côté de Benfica. Et septième but pour Ramos toute compétition confondue en 2024. Il en a inscrit 10 sur l'ensemble de la saison. Donc, autant Vitinha confirme, autant Ramos, il... en train peut-être de justifier enfin le montant de son transfert avec Mbappé dont on n'a pas besoin. C'est peut-être pas mal pour la confiance pour ce joueur, Franck Simon.
Oui, d'autant qu'il n'est pas toujours... Il démarre pas titulaire. Il y a encore pas mal de matchs importants pour le Paris Saint-Germain et pas qu'en Ligue des Champions, mais c'est vrai que ça compte infiniment.
Parce qu'il y a peut-être une transition. Voilà, je parlais de Mbappé. C'est parce que on va devoir être de moins en moins dépendant de Mbappé.
Mais c'est déjà le cas
du côté de Paris.
C'est déjà le cas. On est en train en fait d'évoquer une situation qui dure depuis quelques matchs déjà. Depuis qu'il annonce en interne que ce jeune homme va prendre une autre direction, plus au sud, du côté de Madrid. Bon, ben voilà.
C'est jeune homme.
Oui, c'est un jeune homme. Hein, quand
même. C'est toujours un jeune homme, effectivement.
Ça reste un jeune homme, hein, par rapport à nous autres, ça reste un jeune homme. Et donc Mbappé, il peut faire peut-être Griezmann.
Griezmann.
Merci. Et il peut faire Griezmann, pourquoi? Parce que il avait listé ce match, il a envie de briller, c'est l'OM, il a souvent brillé contre l'OM, c'est un homme de statistiques, il s'est dit tiens, pourquoi pas les taquiner celui qui était meilleur que moi dans les classiques, un certain Zlatan Ibrahimovic. Pour le coup, ça sera pas le cas, il reste derrière Zlatan. Et puis de toute façon, il a faim de tout, il a cet appétit de marquer des buts, et c'est normal. Hier, il a été transparent, il a pas réussi grand-chose. Et donc, tu sors parce que tu n'es plus un titulaire. Tu es dans la rotation, tu es un titulaire. Oui, d'accord, mais tu es dans la rotation du coach. Mais,
en fait, j'entends, vous lui trouvez des circonstances. Moi, j'aime
mais je lui trouve rien. Je trouve qu'il n'est pas bon.
C'est vrai
qu'il
n'est pas bon. Dominique explique, on est dans la gestion.
En tout cas, j'avais posé une question sur Ramos, on est revenu à Mbappé. Il reste quand même un peu au-dessus du game.
Dans le très haut niveau, on ne doit pas avoir de gestion. Là, actuellement, il sort parce qu'il est mauvais.
Mais oui.
Point final.
Non, on fait les mêmes débats toutes les semaines,
mais il est mauvais.
Il n'aurait pas été sorti dans un contexte qui n'est pas celui du contexte actuel de son futur départ.
Au moment où il sort Dembélé, lui, c'est un petit peu chaud quand même. Il y a quand même deux, trois occasions.
Paris n'est pas sûr de gagner.
À l'arrivée, il gagne 2-0. Mais sur l'attitude et tout, officiellement, il ne mérite pas. Donc l'entraîneur fait des choix importants.
Donc dernier point positif, Hugo, c'est une victoire pour Luis Enrique. C'est-à-dire que, comme le dit Marc, il sort à 1h de jeu, les deux stars, il n'y a plus que deux stars au PSG, c'est Dembélé et Mbappé. Il sort les deux stars, il fait Asensio Ramos, et il gagne le match, et il met même un deuxième but.
Avec une passe d'Asensio pour Ramos.
Donc son coaching, ce qu'on appelle un coaching gagnant. Donc vous me demandiez les points positifs, il y en a encore un autre, c'est que Luis Enrique, pour lui, c'est tout bénef hier soir. C'est son premier classico à l'extérieur, il l'a gagné, ça c'est toujours important. Vous parliez de l'année dernière, la défaite en Coupe de France, elle est pour Christophe Galtier, il a rassasié.
Oui, et puis ça l'avait encore.
C'est un enchaînement où ils perdent Monaco, Marseille et le Bayern. Donc voilà, donc là, il a gagné son classico, il a fait un coaching gagnant, il a gagné sans Mbappé, entre guillemets. Tout ça, c'est bon pour lui.
Dominique Sévrac, Franck Simon et Marc Libra dans Radio Foot sur RFI aujourd'hui. Vos avis, messieurs, m'intéressent évidemment, mais les avis de nos fidèles auditeurs m'intéressent également.
Bonjour à l'équipe de Radio Foot, c'est Divisambo. Depuis Kursal en bat à Sénégal, le Paris Saint-Germain n'a pas très bien joué hier. Même s'ils ont gagné 2-0, Marseille nous a encore montré ses limites. Jean-Louis Gasset aussi nous a encore montré ses limites parce qu'à la 40e minute, Beraldo est sorti sur carton rouge et l'OM n'est pas capable de gagner ce match. C'est absolument ridicule, c'est vraiment ridicule.
Bonjour, la Radio Foot International, sous Amadou depuis Brazzaville, Luis Enrique. Même si Kylian Mbappé a décidé de quitter au PSG, mais ce n'est pas le moment de le faire sortir en jeu à la 60e minute. C'est un grand joueur quand même, il peut marquer le but à tout moment.
Roger, à partir de la République démocratique du Congo, Marseille n'a pas les niveaux. Il a montré, malgré les absences, malgré l'infériorité aussi numérique du côté du Paris Saint-Germain, il n'était pas à la hauteur. Nous espérons que Paris va donner un grand jeu contre le Barça.
Bonjour Radio Foot International, je suis Noudjitba Akchudik Théodore de N'Djamena au Tchad. Le classique Made in French nous a fait une très belle affiche avec des duels gagnants de chaque côté. Bravo au PSG, le PSG qui a posé sa suprématie en France, et c'est bien mérité. Avec la blessure de Bemba, ça a été vraiment difficile aux Marseillais, mais dans un match il y a toujours un vainqueur. Donc, le PSG est sorti vainqueur.
Nos auditeurs invités, désormais à s'exprimer dans Radio Foot tous les lundis, car ils ont un avis, ils ont du talent. Ils nous parlent de l'OM, de ses limites, de ses mésaventures, avec effectivement Chancel Mbemba, qui doit sortir sur blessure. Ça aide pas. Pour parler de Marseille, et ça, nos auditeurs n'en ont pas parlé, Marc Libra voulait adresser un carton rouge, alors non pas à Beraldo, mais à une partie des supporters de l'OM, dont il n'a pas apprécié l'un des tifos.
Non, mais j'ai pas compris ce qui s'est passé. Il y a toujours des tifos magnifiques. Et là, on a vu un personnage qui est apparu. Je vous dis franchement, j'aurais aimé
qui
voir...
Qui n'a pas grand-chose à voir avec...
Non, c'est Redouane Bougaraba, qui je connais bien, qui est un garçon charmant, adorable, qui fait rire ou qui fait pas rire. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Et c'était surprenant de voir ce genre de choses. Et surtout qu'on était, depuis quelques jours, on parlait de 4 ans du décès de Pape, quoi. Pape Diouf, qui a été un des plus grands présidents, comme Bernard Tapie. Oui.
De l'Olympique de Marseille.
Et qu'on va se rappeler que l'année du Covid, on ne fait rien. 2021, on fait 2-3 petites banderoles très pauvres. Là, c'était le 31. C'était le moment de faire... Allez, je vais m'enflammer, je suis le Marseillais. 4 tribunes avec Pape Diouf partout. Ben non, on a vu ça. Je trouve ça très, très... Peut-être que l'Olympique de Marseille doit s'imposer, de dire, écoutez, les garçons, on ne peut pas faire ça. On fait ça, ça, ça.
Parce qu'en fait, c'était de la pub pour un, ouais, un artiste c'est pour, de spectacle.
Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais c'est le bud ou bad bud, tout a été fait. Mais j'aurais préféré qu'on ne voit pas ce genre de choses, malheureusement. Et j'aurais aimé voir Pape Diouf pour ces 4 ans, la disparition de Pape Diouf.
Et peut-être pour les 5 ans, la saison prochaine. Vrai carton rouge. Ensuite, comme le dit notre auditeur, le vrai carton rouge pour Beraldo. Et comment fait Marseille pour ne pas en profiter. Alors, il y a eu, vous en parliez, Franck Simon, me semble-t-il, un but refusé après l'ouverture du score parisien, quelques minutes après, une reprise de Veretout sur un deuxième ballon et l'arbitre qui siffle un hors-jeu. Luis Enrique, pas l'entraîneur, hein, l'autre, qui gênerait Donnarumma. Ça vous a pas plu? Vous avez pas compris?
J'ai pas compris. Et c'est un élément supplémentaire. Là, on parle suffisamment de l'arbitrage français et pas forcément bien ces derniers temps. Et voilà, c'est encore une pierre dans le jardin des hommes au sifflet. J'ai pas compris. Je m'explique toujours pas, mais pour moi, ça fausse le truc. Ça fausse le
Quelqu'un
truc.
A compris?
Bah, non plus. J'ai pas compris, moi. Je suis pareil.
Je crois que le Parisien non, mais a un peu mieux compris.
Non, c'est pas ça. C'est que Bruno Bastien, c'est son nom, hein, Bruno Bastien,
l'arbitre de la rencontre,
a dit
oui.
que Luis Enrique, le joueur, gênait Donnarumma. Donc il est hors-jeu, clairement, et qui gênait Donnarumma. Donc c'est son interprétation à lui. Moi, je pense que c'est bidon. Je pense qu'on est après la mi-temps et qui sait que le carton rouge de Beraldo, il est compliqué. Qui se demande s'il a pris la bonne décision et donc ça s'appelle, c'est un truc vieux comme le monde de l'arbitrage, VAR ou pas VAR, ça s'appelle du rééquilibrage, ça s'appelle de la compensation. C'est qu'au lieu de faire une erreur, vous en faites deux. c'est le vieux comme le monde. La compensation, c'est faire deux erreurs au lieu d'une. Il a arbitré à l'ancienne.
Allez, on va prendre votre explication, même si elle nous rend un petit peu perplexe. Non pas votre explication, mais si c'est la vérité. L'effet Gassé, 5 victoires d'affilée. Est-ce que c'est définitivement Marc Libra du passé? Puisque là, on en est à 3 défaites de rang pour l'ex-sélectionneur des éléphants de la Côte d'Ivoire, qui s'est fait sévèrement tacler par l'un de nos auditeurs il y a quelques instants.
Oui, après, Gassé est venu pour dépanner. On sait le début de saison de l'Olympique de Marseille. Si on doit parler de l'Europe, c'est un miracle si l'Olympique de Marseille récupère une place européenne. J'avais dit il y a quelques semaines, même la toute petite Coupe d'Europe, la plus petite, il faut la prendre. Parce que tout ce qui s'est passé cette saison, ça serait fantastique que l'OM récupère
Mais
l'Europe.
Mais vous y croyez?
Ça fait un moment que j'y crois plus, non. Non, ça fait un moment que j'y crois plus. Il faut être raisonnable. Non, pas du tout. Ça va être difficile. La saison s'arrête quand on ne se qualifie pas pour une Ligue des Champions, ce qui est l'objectif et le moteur de l'Olympique de Marseille, et tout se joue sur ça. À partir de là, votre saison, elle est finie. C'est-à-dire que vous avez recruté des joueurs, vous avez mis de l'argent, vous avez tout prévu pour ça. Ah, ben, y a un problème, finalement, on n'est pas qualifié.
La Ligue des Champions, là, vous êtes, vous êtes à 10 points.
Non, mais je parle de ce qui s'est passé en juillet ou dernier, qui doivent se qualifier.
Ah. Et qu'ils sont éliminés.
Mais là, votre saison, elle s'arrête là. Elle n'existe plus, la saison. C'est-à-dire que là, tous les mecs, tous les joueurs sont conditionnés. Après, on dit, ouais, Aubameyang, il n'est pas très bon. Mais excuse-moi, mais Aubameyang, il vient, il est conditionné.
Mais il faut essayer de se qualifier via le championnat.
Mais là, c'est pas possible.
À 10 points de la troisième
place. Mais comment ils vont faire? Il faut tout gagner. Mais c'est pas possible. Avec le nombre de blessés, hormis les blessés, il y a 2 mois, je vous disais, en début janvier, je vous dis, s'ils arrivent. Alors, il y avait encore l'entraîneur italien qui était là, Gattuso. Mais ça me paraît très difficile sur ce qu'ils sont capables de produire, sur ce qu'ils sont. Alors, il y a eu l'effet Gassé rapidement, mais les sceptiques vont dire qu'ils ont croisé Clermont et Montpellier. On va rappeler aussi que Montpellier, il y a un fait de match, ils mènent 1-0. Il y a un poteau de Ferry, autrement, ils mettent 2-0. Et au bout de 20 minutes, 2-0 Vélodrome avec. Et puis, ça s'est retourné, ils ont su gagner. Maintenant, ils vont croiser, je crois que c'est Rennes, après Yannick. Enfin, donc, on s'est enflammé dès le départ, c'est bien. Mais Gassé ne peut pas prendre tous les problèmes, tous les maux de l'Olympique de Marseille aussi, parce que pour moi, il y a quand même une ossature qui a été faite, qui a été mal faite.
Alors, ce n'était pas forcément pour critiquer.
Et les blessés, tous les blessés, hein, de longue date.
Pour dire qu'il n'y a pas de sauveur, parce qu'il n'y a pas grand-chose peut-être à sauver, c'est ce que dit
Marc Lévin. Et malgré tout, ce qu'il fait, c'est mieux que Gattuso.
Ouais.
Malgré tout, ce qu'il fait, c'est cohérent.
Bien sûr.
Malgré tout, pour moi, vu que certains intérimaires, on sait qu'à l'année prochaine, ils vont viser un autre entraîneur, peut-être Christophe Galtier, puisqu'il est pote avec les nouvelles personnes de la direction qui sont d'anciens Stéphanois qui l'ont connu à Saint-Etienne, Christophe Galtier. C'est aussi pour ça qu'ils ont pris Jean-Louis Gasset, parce qu'il a été entraîneur à Saint-Etienne et qu'ils le connaissent. Pour moi, ça reste l'homme de la situation, ça reste un super intérimaire, ça reste quelqu'un qui a réveillé l'OM. Alors là, dans les 3 défaites, il y a quoi? Il y a Villarreal, mais le match aller, il l'avait gagné, il l'avait écrasé. Il y a Paris. C'est quoi la 3e défaite du Hugo ?
C'est Rennes.
C'est Rennes.
Marc Libra l'avait, l'avait mise de côté, celle-là, mais
non, je l'ai dit, c'est
défaite Rennes. 2-0 à Rennes.
Bon, bon, c'est pas honteux en ce moment de perdre à Rennes. C'est pas honteux de perdre à Villarreal quand vous avez gagné le match aller, c'était combien, 4-0?
Oui, mais vous étiez c'est pas la loin façon. De la, oui. la remontada.
Certes, Dominique, c'est la façon c'est de perdre qui me gêne. Tu vois, bien tu sûr. Perds à Rennes, il se passe rien. Rennes s'est fait taper hier face à Strasbourg, où Strasbourg, ils sont dans une situation compliquée. Ils ont montré un petit peu les dents, ils les ont bougés. Donc c'est la façon qui me perturbe. Gassé, tu as raison, a fait du très bon travail pour l'instant, mais l'effectif reste pour moi moyen.
Bien sûr, ils se sont trompés. Là, tu as raison, c'est qu'il peut pas endosser tous les mots de Longoria, de le recrutement, des erreurs de Gattuso, des erreurs de Marcelino au début de saison. Voilà, on est au quatrième entraîneur. Il y a eu l'intérim de Pancho à Bardonado. On est quand même sur le quatrième entraîneur de la saison. Et la saison, il reste combien de journées de championnat, vous avez dit
On est à la 27e. On vient de disputer la 27e, donc il en reste pas beaucoup. Voilà. Franck Simon, bien sûr. Personne n'a vraiment envie de faire le procès de Jean-Louis Gasset parce que, quelque part, il a déjà réussi un miracle. Et on rappelle que l'OM est encore en course en Ligue Europa avec un quart de finale qui arrive face au Benfica. Donc, il y a encore la possibilité de vivre une saison pas si décevante que ça. Parce que on sait que l'Europe peut enflammer et relever et créer quelque chose du côté de Marseille.
Il doit y avoir que les supporters marseillais les plus endurcis, les plus forts pour continuer de croire à une fin de saison exceptionnelle. Mais il faut quand même se souvenir qu'il y a quand même pas mal de garçons qui sont sur le flanc. Là, tu viens de perdre un Chancel Mbemba. Oui. Effectivement, Pierre-Emerick Aubameyang, il peut pas tout faire. Hein. Il peut pas sauver les ballons. Il peut pas être passeur décisif et finir les actions. Ça paraît compliqué. Je pense quand même qu'une place européenne reste jouable. C'est assez resserré. Ils ont réussi une série face à des adversaires, effectivement, qui étaient largement à leur portée. Il faut refaire une série.
Mais ça gagne devant. Tu sais, Franck, ils gagnent tous devant. En fait, c'est ça le problème. C'est, tu vois que Monaco revient, Lille revient, Lens s'est fait accrocher, mais Brest ne lâche pas non plus. Donc, si tu veux.
Alors, Brest, tels qu'ils sont, là, ils vont. Tu vois.
Et le problème, il est Hugo.
Il faut finir où pour être européen.
Il y a 22 tirs hier, Hugo. Alors, ok, Donnarumma fait une super saison, mais dans les 22 tirs, c'est pas normal d'en pas en mettre un. Alors, certes, il y a un but plutôt valable de Veretout, mais 22 tirs et 0 but à la fin, là, on sait où il est identifié. Et comme l'a dit quelqu'un, je sais plus qui, il peut pas tout faire, Pierre-Emerick Aubameyang. Mais à part lui, il y a qui de bon dans cette équipe? Il y a qui à la hauteur de
qualité, de qualité, tu as raison.
Ah, quand ça va bien, peut-être un Ismaïl Assar peut quand même être bon. Il y a quand même du joueur. Ndiaye peut. Avoir du football. On va pas refaire la revue d'effectifs. Simplement, Marseille 7e à 3 points, ne serait-ce que du 6e. Il faut aller où pour être.
Gagner la Ligue Europa.
Gagner la Ligue Europa, pourquoi pas. Prochaine.
C'est une solution.
Prochaine.
Ils sont capables,
échéance.
Mais avec les équipes qui restent, il y a des grosses équipes quand même.
Et c'était vite Liverpool.
Dont le Benfica. Benfica-Marseille. Marseille-Benfica. Les 11 et 18 avril. La prochaine journée de Ligue 1 pour Marseille, ce sera le 5 avril. À Lille, donc là, un autre défi assez important. Et puis, voilà, donc ce quart de finale de Ligue Europa qui attend les Marseillais face au Benfica, le club portugais.
Il n'y aura pas Vata.
Il n'y aura pas Vata pour marquer de la main. Alors non.
C'est revival.
Il va falloir rappeler
c'est vintage,
aux
c'est
ceux
vintage.
Qui n'ont...
C'est 91.
Tout le monde connaît.
C'est pas juste une histoire de ceux qui avaient 20 ans.
Moi, je pense que tout le monde le connaît. C'est rentré dans l'histoire du football. C'est comme la Magère. Tout le monde comprend.
Marc Libra était pratiquement en première loge. 91. Voilà, c'était une demi-finale de Ligue des Champions.
Ouais.
C'est ça. Et un but de la main pour le Benfica.
Et Jean Castaneda dans le but à l'époque.
Un énorme scandale. Voilà. Et puis l'année d'après, Marseille l'a remporté à jamais les premiers. Blablabla.
Deux ans après.
Et si on passait à la Ligue des Champions africaine, messieurs. Corbeaux de Mazembe n'ont pas vraiment pris leur envol. Match nul et vierge à la maison du tout-puissant Mazembe contre les Angolais du Petro de Luanda. Samedi, c'était le retour des Coupes d'Afrique de clubs ce week-end. Coup d'envoi notamment des quarts allés de la Ligue des Champions. Pas exactement en fanfare. Outre le match du tout-puissant Mazembe, on a eu pratiquement que des 0-0. Un seul but marqué sur 4 rencontres. Franck Simon.
Ah, c'était pauvre, hein. C'est rare d'avoir des cas.
C'est pas une excellente publicité. Bah, d'ailleurs, peut-être avant de parler du tout puissant Mazembe, oui, faire ce constat-là, c'est pas une excellente publicité. Retour de la Ligue des Champions, 4 quarts de finale aller. On se dit là, l'Afrique de club va montrer ce qu'elle a dans le ventre. Un seul but inscrit pour le Al Ahly à la 4e minute du match.
Donc il n'y a pas ceinture.
Donc vous avez, pour le reste, rien
n'est gagné. Imaginez quand vous commentez les matchs. Hein. C'est bonjour tristesse. Hein. Mais il s'est passé des trucs, parce que là, dans le cas de Mazembe, contre les Angolais du Petro Atlético de Luanda.
0-0, simplement, je le dis. 0-0.
Il y a eu 25 tirs dans ce match.
À domicile, est-ce que c'est une mauvaise opération? Est-ce que vous voulez relativiser, nuancer? Vous qui avez suivi le match et qui l'avez même commenté.
C'est le constat qu'on doit faire, c'est que cette équipe angolaise, elle est invaincue depuis octobre-novembre. C'est une équipe qui n'encaisse quasiment plus de buts. C'est assez incroyable dans l'histoire derrière de la Ligue des Champions, mais également en championnat, ils prennent très peu de buts. Ils ont pris 6 buts, ils ont pris plus de buts en championnat, dans le Girabol anglais, que dans les compétitions africaines. C'était une équipe qui se livrait, qui aimait jouer, quoi. Ils avaient des Brésiliens dans l'effectif, 2 Portugais, tout ça. Enfin, quand tu venais voir jouer le Petro Atlético de Luanda, tu étais sûr que tu allais avoir du spectacle. Et là, depuis novembre, l'entraîneur qui est sur place depuis 3 saisons, il a dit non, on va passer à autre chose, on en a marre d'encaisser les buts. Il a tout serré. Il joue avec 3 axiaux, des pistons dans les couloirs pour alimenter, mais aussi venir faire le travail. Et effectivement, ils sont venus chercher en République démocratique du Congo, à Lubumbashi, le match nul dont ils avaient besoin, en se disant, bah tiens, une semaine plus tard, on va faire le boulot à la maison contre le tout-puissant Mazembe. Et Mazembe peut avoir effectivement des regrets, parce qu'ils ont arrosé le but, le gardien... Le vieux gardien Hugo Marques, du Petro, a sorti quelques parades. Mais moi, je pense qu'ils peuvent le faire, hein, les joueurs de Lamine Diaye. J'y crois. J'y crois vraiment. On a vu des faiblesses terribles de la part du Petro. Et puis, c'est un match où on a découvert un petit bonhomme de 18 balais. Enfin, moi, je ne l'avais jamais vu jouer. J'en avais entendu parler. Première titularisation dans le couloir droit. Il s'appelle Kabuit Chikombe. Tout petit gars. Il était formé au tout-puissant Mazembe et on a vu que lui pendant une heure. Malheureusement, Lamine Diaye a décidé de le sortir, de faire entrer le titulaire habituel. Ça n'a pas eu le même effet. Et je pense que s'il repart avec ce petit gars-là sur le terrain à Luanda, ça peut faire encore des étincelles. Mais bon, Mazembe pareil, hein, est très solide. Ils n'encaissent pas beaucoup de buts. Faut croire en cette équipe. C'est une des rares équipes de l'Afrique francophone encore en lice, hein, dans les compétitions africaines.
Et elle est de retour. Donc il y a aussi un réapprentissage.
Il y a un vrai renouveau, parce que l'année dernière, c'était
des matchs couperés en Ligue des Champions. Ça faisait un certain temps.
Certainement. Mais moi, je voudrais souligner aussi le travail d'Alexandre Jurin, l'adjoint de Lamine Diaye, et puis de Lamine lui-même, parce qu'ils ont réussi à faire redémarrer une équipe qui jouait plus, qui marquait plus.
Est-ce que vous avez des nouvelles? Il y a eu un peu de remous en interne, si j'ai bien compris, avec le gardien remplaçant, Badjo Siadi, qui aurait été écarté, des problèmes,
extrasportifs.
Est-ce que vous avez suivi ce dossier?
Je suis comme vous.
Gardien remplaçant de la RDC aussi.
Je suis comme vous, j'ai les réseaux sociaux. Donc j'ai bien vu cet après-midi ce qui avait été annoncé par le club congolais. Après, étant donné que j'étais un petit peu gardien dans ma carrière amateur, tout en bas de l'échelle, quand t'es gardien, quand en plus t'étais titulaire et que tu te retrouves réserviste, à un moment donné, tu les as comme ça, quoi.
Oui, c'est la CAN qui a marqué une cassure dans son statut au sein du tout-puissant Mazembe.
Disons que c'est un club qui a été habitué à avoir souvent beaucoup de gardiens. Ils ont un Malien, Munkoro, qui a eu à un moment donné été titulaire, il a perdu son truc au bénéfice donc de Siadi Badjo. Ils ont un Nigérian qui est très talentueux, qui est arrivé je crois qu'il fait sa deuxième ou troisième saison, qu'on va avoir joué à un moment donné. Et le titulaire actuel, c'est un gars qui a gagné la CAN avec le Sénégal. Aliou Badra Fati était gardien réserviste pour Aliou Cissé avec les Lions de la Teranga. Donc, si vous voulez, ça se bagarre pour jouer. Et
ça crée des mécontentements.
Et ça peut créer des mécontentements, surtout quand on s'appelle Siadi Badjo, qu'on a fait pas mal de gros matchs africains, et que là, d'un seul coup, on vous dit on n'a pas trop besoin de toi. Donc, il y a eu peut-être un petit peu de mauvaise humeur, des mouvements d'humeur, des déclarations, des vidéos, je ne sais quoi. Ça n'a pas plu à la direction. Et donc, du coup, il s'est fait un petit peu afficher par ses patrons.
autres clubs francophones encore en lice dans la Ligue des champions africaine et également de retour à ce niveau de compétition après quelques années d'absence. La SEC Mimosa est 0-0 également face à un club un peu plus impressionnant que le Petro Atlético, à savoir l'Espérance de Tunis. Je parle sur le papier parce que le Petro, c'est pas mal, vous l'avez dit. Match nul à l'extérieur pour la SEC d'Abidjan. À l'extérieur, donc à Tunis face à l'Espérance, la SEC entraînée par le français Julien Chevalier.
Je tiens déjà à féliciter l'état d'esprit de mes joueurs qui ont su s'adapter, qui ont su faire le dos rond un petit peu dans une période difficile et un match compliqué face à un très très bon adversaire, on le savait. On espérait pouvoir mieux faire au départ de la rencontre et puis on s'est aperçu que c'était difficile ce soir, donc on s'est mieux réinstallé en deuxième période pour bien défendre. Donc il faut les féliciter de l'avoir bien fait. Il a fallu aujourd'hui se contenter de défendre. Il a fallu s'adapter à la situation du jour. Et puis après, j'ai pas l'impression qu'on ait perdu énormément de temps. Le foot évolue. Puis en plus, pour ceux qui me connaissent, je suis surtout pas un entraîneur qui aime ça. Parce que de toute façon, l'arbitre va en rajouter.
Et je vous rassure, Julien Chevalier n'est pas un robot, contrairement à ce que laisse penser la qualité sonore de notre extrait. Voilà, c'est... Les aléas techniques des compétitions de football, c'est fort ce qu'ont fait les joueurs de la SEC en allant chercher le nul sur le terrain de l'Espérance, Franck Simon.
Disons que ça les met sur une voie plus intéressante, aller chercher un point en Tunisie, enfin à Rades contre l'Espérance de Tunis.
C'est un géant.
Oui, mais c'est un géant, vous savez.
Qui vacille.
C'est une équipe de en quelques mois, tu avais un effectif, les gars sont tous partis, tu as dû rebâtir, tu as mis un entraîneur qui était directeur sportif, qui a fait comme il a pu, il a choisi des joueurs ici et là. Donc, ils se sont totalement reconstruits en l'espace de quelques mois. C'est solide. Et puis, à un moment donné, les dirigeants de l'Espérance ont dit « Ok, mais le directeur sportif, il ne va pas faire l'affaire, il va rester à son poste. » Et on fait venir Miguel Cardoso. Je pense que c'est un nom qui doit vous parler. Un Portugais, et lui, il est revenu avec d'autres idées, même effectif, mais d'autres idées.
Qui est passé à Nantes, non ?
Qui est passé au FC Nantes, Miguel Cardoso. Et lui, beaucoup plus exigeant, il a envie d'un football un peu plus spectaculaire. C'est pas facile de jouer l'Espérance actuellement, ça marque pas beaucoup. Le problème, c'est que la SEC, ça marque plus du tout. Ils avaient un petit gars qui marquait but sur but il y a quelques mois en arrière, Karamoko Sankara, qui a été vendu pendant la CAN. Bah, la SEC a besoin un petit peu de... Voilà, ils ont besoin, comme tout club, de moyens. Il y a 6 mois en arrière, ils avaient une offre, ils l'ont refusée. Et puis, vous connaissez la suite de l'histoire, le gars, il a mis des buts, but sur but. Et du coup, ils n'avaient plus d'autre choix que de le vendre. Et là, au cours des 7 derniers matchs, la SEC, ils ont mis 2 buts. Et donc, effectivement, tu vas à l'Espérance de Tunis, tu sais que ça va être compliqué là-bas, que tu es attendu par cette équipe qui est très solide avec que des internationaux, ce qui n'est pas le cas de la SEC. Et du coup, c'est un gros match d'abord de la défense de la SEC, de son gardien Charles Folie Ayayi, qui a gagné la CAN comme réserviste dans l'effectif des Mersfaé. Et c'est une belle perf pour les Mimosa maintenant à domicile.
À confirmer.
Ouais, il faut confirmer tout simplement.
Ce sera le week-end prochain.
C'est dans leur corps.
Les autres résultats des Caralais de la Ligue des Champions, Young Africans, Mamelodi Sundowns 0-0 et le succès détenant du titre, on en parlait. Les Égyptiens d'Al Ahly chez les Tanzaniens de Simba 1-0 et puis en Coupe de la Confédération, le revers des Maliens du Stade Malien 2-1 à domicile face aux Dreams FC. Du Ghana, par ailleurs 2-1 pour Zamalek face aux compatriotes de Modern Future et 1-0 Rivers United du Nigeria contre USM Alger. Enfin, 0-0 Renaissance de Berkane chez les Libyens d'Abou Salem. On va en rester là, on va applaudir Franck Simon quand même pour son exposé monsieur foot africain.
Je voulais juste ajouter un truc parce que je suis sûr que ça ne vous aura pas échappé non plus, chers camarades. Mais on est dans une période, on sort d'une fenêtre internationale. Les gars, ils n'avaient même pas 3 jours pour quitter les sélections nationales africaines et rejoindre
jouer
leur
Ligue
club.
Des champions,
donc, il ne faut pas s'étonner si tu n'as pas eu non plus beaucoup de buts. Quoi. Les gars, ils sont arrivés, ils étaient rincés. Quoi.
Bon, petit carton rouge au calendrier et carton vert,
ça
très vert,
le carton rouge,
monsieur Franck Simon.
Ça sera terminé, on en restera là dans ce match remporté avec courage du côté du Borussia Dortmund qui s'impose 2-0. Fripon. Oh, le deuxième but de Patrick Kik. Premier ballon du match a explosé, le Bayer Leverkusen qui renverse totalement ce match en champion.
Il n'y a plus de suspense, nous n'avons plus d'espoir, pas besoin de raconter quoi que ce soit. félicitations à Leverkusen. Alors, j'ai pas fait l'accent ni l'imitation, mais il parle français, le monsieur qui a prononcé cette phrase. Vous l'avez fréquenté de près, mon cher Dominique Sévrac. Ces mots, ce sont ceux d'un certain
Thomas
Tuchel, l'entraîneur d'un Bayern de Munich aujourd'hui, habitué à toujours gagner la Bundesliga. Quand ce n'est pas le Bayern, normalement c'est Dortmund, sauf que cette saison, ce sera Leverkusen, nous dit Tuchel, en tout cas Neverkusen, comme on les surnomme, habitué à ne jamais gagner la Bundesliga. Il faut dire que le Bayern a... Le Bayer, pardon, c'est là qu'il faut être précis. Le Bayer a de nouveau gagné en renversant la vapeur contre Hoffenheim, on l'a entendu ce week-end, 2-1. Dans le même temps, le Borussia Dortmund a battu justement le Bayern Munich dans un classiqueur qui, pour une fois, était un classiqueur des futurs losers. 27 journées sur 34. 13 points d'avance pour le Bayern sur le Bayern. Vous êtes d'accord avec Thomas Tuchel ? C'est fait ?
Oui, oui, bah, c'est fait, bon, tant mieux, parce que c'est la consécration de Xabi Alonso, l'entraîneur le plus demandé de la prochaine intersaison. Le Bayern, Munich le veut. Le Liverpool le veut pour remplacer Jürgen Klopp.
Normalement, il ne bouge pas, il dit qu'il restait, non ? T'en penses ?
Mais en tout cas, vous savez que là, on parle beaucoup de Luis Enrique, mais il était dans une shortlist avec Julian Nagelsmann et, les gens l'oubliaient, Xabi Alonso.
Pour entraîner le Paris Saint-Germain
L'été dernier, ça on l'a oublié un petit peu. Donc c'est l'entraîneur le plus demandé actuellement sur la scène européenne. Tout le monde pense que ça va être le futur Guardiola, le futur Ancelotti, un crack absolu. Il va être champion avec un super jeu. Donc c'est génial.
Pourquoi partir alors ?
Il faut dire qu'il a été entraîné par Ancelotti au Real, qu'il a été entraîné par Guardiola au Bayern Munich, c'est un ancien de Bavière. Effectivement, il a ce profil un peu à la Guardiola sur le terrain du meneur de jeu reculé un petit peu. Ça a été avec Xavi l'un des maîtres à jouer de la grande Espagne et du grand jeu espagnol fin des années 2000, début des années 2010, Marc Libra. Mais au-delà de son savoir-faire technico-tactique, là, il y a eu un match à renverser avec deux buts vraiment en toute fin de match contre Hoffenheim. Il a l'air aussi d'avoir peut-être quelque chose dans le mental, dans le coaching mental. Lui qui a justement gagné la Ligue des Champions au mental, si je puis dire, du côté de Liverpool, l'un des clubs qui le courtise.
Il y a surtout son équipe qui, depuis le début de la saison, c'est la bonne surprise. C'est des revanchards, soi-disant. Mais à l'arrivée, aujourd'hui, quand vous savez qu'il ne reste que 7 journées et que vous marchez sur la Bundesliga, il ne peut rien vous arriver. Il y a quelques semaines, votre entraîneur officialise en disant, parce que moi, je l'ai lu aussi, je reste. C'est quand même plus facile pour prévoir la saison par rapport à des joueurs qui s'éclatent, qui se régalent. Donc, il ne faut pas être surpris de ce qui se passe. Hein.
Un petit peu, quand même, quand on voit la qualité des effectifs. C'est-à-dire que le Bayern achète Harry Kane et vous trouvez le moyen pour la première fois depuis 2012.
Harry Kane est exceptionnel. Il a mis 32 buts cette saison en autant de matchs. Hier, il met le 33e. Il est refusé pour hors-jeu, si mes souvenirs sont bons. Mais c'est derrière que ça ne suit pas. Et il tombe face à Dortmund, face à une équipe avec une colonne vertébrale, du gardien jusqu'à Fulkirk devant, qui sont exceptionnels.
Ça reste quand même un chat noir incroyable, Harry Kane. Il est parti de Tottenham pour gagner des titres.
Il ne gagnait jamais rien.
Comme le dit Hugo, c'est quand même Leverkusen, c'est-à-dire ceux qui ne gagnaient jamais, qui vont être champions d'Allemagne. Lui, avec l'Angleterre, il est en quart de finale de la Coupe du Monde, il met son penalty à 8 mètres au-dessus contre la France. Il va en finale avec des champions avec Pochettino et Tottenham, il la perd.
Il va en finale de l'Euro à domicile,
il la perd. Il va en Allemagne pour la première fois de sa vie pour être au moins champion d'Allemagne. C'est pas le truc le plus dingue. Les Bayern, ils ont été 11 fois de suite. Et ils vont pas l'être. Ah, c'est quand même, ok, tu l'as dit, il est exceptionnel, mais c'est quand même, c'est un chat noir.
Et s'il n'y a pas lui, ils sont où, le Bayern ? On parle par rapport au Bayern, tu as raison.
J'espère qu'ils vont gagner avec des champions, hein. Peut-être ça lui fera un beau titre.
Mais c'est pas son rendement qui est en...
Non.
C'est l'équipe autour de lui qui
est pas au niveau. Mais alors, est-ce que c'est plus l'échec du Bayern, voire de Dortmund, que la réussite du Bayern Leverkusen qui... est passé tout près d'une première défaite cette saison. C'est bien ça. En fait, ils ne perdent pas quand même cette
équipe. Toujours pas.
C'est beaucoup extraordinaire ce qu'elle réalise. Beaucoup,
hein. C'est l'échec du Bayern pour moi, Hugo. C'est l'échec du Bayern. Quand vous annoncez que votre entraîneur ne sera plus là la saison prochaine, c'est que les choses vont bien. Jürgen Klopp peut se permettre, même si c'est un peu surprenant, de dire en janvier, je m'en vais.
De Liverpool.
Parce qu'il sait que son groupe, est-ce qu'il a construit suffisamment fort? Là que le Bayern a été obligé de dire que Thomas Tuchel ne serait plus là à la fin du mois, à la fin de la saison, pour moi, c'est ce qui peut arriver de pire à un groupe qui va déjà mal, parce que c'est le meilleur moyen que ça parte encore plus en sucette. Vous prenez trois cadres en privé, vous prenez Kimmich, vous prenez Thomas Müller et vous prenez Neuer, vous leur dites, vous aimez pas Tuchel? Bah, vous inquiétez pas, il sera plus là dans trois mois. Mais vous le dites pas au monde entier. Parce que c'est le meilleur moyen pour que les joueurs, on déteste l'autorité flottante, et ils vont faire n'importe quoi. Donc ils vont gagner un match de temps en temps, et ils vont perdre les matchs importants, donc le classiqueur contre Dortmund. En Ligue des Champions, ils sont bientôt en quart de finale, je pense que ça va être terrible pour eux, le Bayern Munich, ils se sont déjà passés contre la Lazio de manière un petit peu ric-rac. Donc je pense que le Bayern fait une anus horribilis, une saison horribilis.
Oui, bah, l'année dernière, c'était pas extraordinaire. Il gagne le titre un peu miraculeusement. Nagelsmann est dégagé en cours de saison. Remarquez, même l'année où il gagne la Ligue des Champions face au PSG, en 2020, ils ont
c'est
changé
facile,
de...
Ça.
Oui, mais ils ont changé d'entraîneur. Ils sont parfois capables de rectifier en cours de saison en changeant d'entraîneur. Là, c'est vrai que cette année, en gardant l'entraîneur,
ça fait longtemps. Hansi Flick, Nagelsmann, Thomas Tuchel, ça fait longtemps qu'ils consomment des entraîneurs et que ça marche plus.
Oui, et qu'on sent qu'il y a quelque chose d'un peu difficile au Bayern. Mais est-ce que
c'est pas d'aujourd'hui, Hugo? Vous êtes un jeune
le
homme.
Le fameux FC Hollywood.
Ouais, j'allais y venir, mais attendez, mais moi j'ai baigné dans ce truc-là de toutes les années 90 quand j'étais à France Football. On me disait, allez, vas-y, envoie la sauce sur le FC Hollywood. Et c'était que ça.
Des psychodrames, des changements d'entraîneurs, des cadres qui se rebellent.
C'est que ça. Alors qu'ils arrivaient à avoir les meilleurs attaquants, les meilleurs joueurs. À chaque fois, il s'est passé des trucs. Ça va bien, il faut le casser comme ça. Et ça les rattrape. Alors bon, effectivement, ils se sont pris les pieds dans le tapis. Mais il ne faut pas non plus totalement minorer le boulot de Leverkusen et de
Xabi Alonso.
Et de Xavi. Je pense pas.
Avec notamment qu'on a admiré contre l'équipe de France récemment. Oui. Donc,
7
secondes. Aussi du talent.
7 secondes pour mettre un but.
Juste pour mettre un beau but.
Et surtout, la plupart des joueurs du Bayern étaient en sélection. Donc, face à Dortmund avait moins de joueurs en sélection, c'est important. Tu en parlais sur l'Afrique. C'est pareil pour l'Europe. Et le Bayern avait des joueurs qui étaient un petit peu plus fatigués. Mais on est passé pas loin quand même. Mais ça.
Il faut remonter à quelle année pour que le Bayern ne remporte pas la Bundesliga? Il faut remonter à 2012.
Moi, j'étais là avant, je le sais.
Et pour que ni le Bayern ni Dortmund ne gagnent la Bundesliga, il faut remonter à quelle année? 2009? Wolfsburg?
Ouais, Wolfsburg.
Félix Magath?
Hans-Félix Magath.
Ça ne nous rajeunit pas.
Edin Dzeko, ouais, ça nous rajeunit pas.
Edin Dzeko, j'avais oublié ce nom-là.
Et est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle, finalement, pour la Bundesliga sans prendre parti, d'avoir un tout petit peu de variété en son sommet, c'était devenu un petit peu la chose du Bayern.
On est tellement content quand ça arrive, quand c'est la Juve qui fait des titres chaque année, dès qu'il y a l'Inter qui arrive ou que
Naples,
on est super content. Mais après, la suprématie de ces clubs-là, je suis pas inquiet pour le Bayern,
vite,
hein. ça va revenir très très
non, mais
vite.
Il s'agit pas de leur souhaiter beaucoup de mal.
Leicester était un excès de variété.
C'est une anomalie, c'est une belle anomalie.
Vous avez raison, Hugo, c'est frais. Quand Montpellier, champion de France, c'est frais. Quand Monaco de Jardim avec Kylian Mbappé,
Lille, Montpellier.
Silva, tout ça. Après, il n'y a pas eu de suite. Le problème de ces clubs-là, c'est que là, si vous me dites que Xabi Alonso reste, si vous me dites que la Ligue des Champions va amener des moyens,
et que les moyens
vont bien être dépensés, eh ben là, je vous dis, c'est génial. Mais moi, je veux savoir où le Bayern sera l'année prochaine.
Alors déjà, ils peuvent aussi gagner donc la Ligue Europa. Je crois ils sont en course en Ligue Europa. Et puis
ils peuvent croiser Marseille.
Mais faut conserver des joueurs après, pas seulement l'entraîneur. Conserver des joueurs.
Ah, mais si t'as l'entraîneur, tu sais quand tu t'éclates avec un entraîneur, dans un club des champions, tu sais que tu es avec des champions, tu es chez toi. Ça fragile. Quand il a annoncé ça, tu dis ah oui, mais il est au meilleur moment. C'est-à-dire que tiens, encore en Ligue Europa, tu peux essayer tu peux rencontrer les très gros, mais ça peut te faire du bien pour la suite.
C'est du foot, hein, Marc. Il a pas encore vu les offres des Reds et de Bayern. Hein.
Sûrement, tu as raison.
Quand il va avoir le chèque, et comme tout le monde, il peut avoir
un
chèque qui tourne.
Ah, tu penses?
Et puis, rappelons que le Bayern Leverkusen n'est pas non plus un club sorti totalement de nulle part. On l'a régulièrement vu en Ligue des Champions, une finale même. Comment l'oublier? En 2002, contre le Real Madrid, sans un Zidane très inspiré.
Galactique.
Qui sait ce qu'aurait fait le Bayer Leverkusen, qui a tout de même remporté une Coupe d'Allemagne et une Coupe de l'UEFA, l'ancêtre de la Ligue Europa, dans son palmarès. Leverkusen, voilà, never say never, comme on dit, hein, ne jamais dire jamais.
Well done.
Et vous, on vous veut toujours dans Radio Foot. Dominique Sévrac, Franck Simon et Marc Libra, merci à vous. Mathieu Dugeldre,
le
nouveau maestro à la réalisation. Pierre-Olivier Guérin, la tête pensante de l'émission aujourd'hui. Demain, retour de l'équipe habituelle et évidemment de l'atelier. Annie Gasnier, tout de suite un nouveau journal international sur RFI. Excellente soirée.